France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'incendie de la tour Grenfell à Londres. L'histoire d'une tragédie teinte de mépris et de cupidité qui a coûté la vie à 72 personnes, dont 18 enfants. Le 13 juin 2017 à minuit 50, un réfrigérateur explose et prend feu au quatrième étage d'une tour qui abrite 600 résidents. En arrivant sur place, les pompiers comprennent vite que quelque chose cloche dans cet immeuble. Bientôt, ils perdent totalement contrôle de la situation et doivent renoncer à secourir des familles entières piégées par les flammes. Jamais, depuis la Deuxième Guerre mondiale, un incendie résidentiel n'avait fait autant de victimes. Dans la foulée, une commission d'experts est créée pour faire toute la lumière sur les causes du drame, mais le rapport tarde à sortir. Alors, Kate Campbell, journaliste pour la BBC, décide de mener l'enquête. Et ce qu'elle découvre dépasse l'entendement. En réalité, une multitude d'acteurs, issus des plus hautes sphères de l'administration, mais aussi du secteur privé, ont posé une à une les fondations de la catastrophe en faisant passer leurs profits avant la sécurité des résidents. Notre invité aujourd'hui, Antoine Gignot, grand reporter pour Radio France, correspondant à Londres en 2017 au moment du drame. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Bettina Lioré, rédacteur en chef Franck Cognard, attaché de production Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
On a entendu des gens hurler aux fenêtres. Au secours, au secours! Nous faire signe avec des flashs, des lumières, puis ils ont disparu.
Je suis dévasté par la mort de tous ces gens. Et je les ai vus crier, laissez-nous sortir, en frappant aux fenêtres de jeunes enfants, et puis les fenêtres ont explosé. Et nous avons assisté à tout ça. C'est un cauchemar. Ce sont des images que je ne pourrai jamais oublier.
14 juin 2017, quartier de North Kensington, au pied de la tour Grenfell. Il est à peine 8 heures du matin lorsque les premiers journalistes arrivent sur le lieu du drame. Toute la nuit, les vidéos terrifiantes d'un gigantesque brasier se sont répandues sur les réseaux sociaux. Des centaines de personnes se sont retrouvées prises au piège par un incendie qui s'est déclenché au beau milieu de la nuit.
Au cours des 29 années que j'ai passées au sein de la brigade des pompiers de Londres, je n'ai jamais vu d'incendie de cette nature.
J'ai tout vu depuis mon jardin, et le drame s'est joué en une demi-heure, peut-être 40 minutes. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Quelque chose d'anormal s'est produit. Je ne sais pas si c'est lié aux matériaux ou au design, mais si vous aviez vu cet immeuble hier soir s'enflammer si rapidement. Des personnes ont fait des erreurs, et ils doivent être tenus responsables. Ces gens n'auraient pas dû mourir dans cet immeuble.
L'organisme responsable de la gestion de la tour Grenfell, dont son entretien, c'est la TMO, dont l'activité est supervisée par le conseil municipal. Mais à en croire certains témoignages, les résidents se seraient plaints de nombreuses reprises auprès de la TMO, justement, de l'absence d'un dispositif de sécurité incendie digne de ce nom. Le président de cette TMO, un certain Robert Blake, est sommé de s'expliquer.
Les gens n'étaient pas en sécurité. Nombre d'entre eux vous ont mis en garde à plusieurs reprises en affirmant que seule une catastrophe déboucherait sur des actions concrètes. Pourquoi n'avez-vous pas écouté ces mises en garde?
Qu'est-ce que je peux vous dire, Nina? On n'imaginait pas qu'un tel événement puisse advenir. On est dévasté, mais à ce stade, j'ai pas suffisamment d'informations et je peux pas faire de commentaires.
Pas d'informations, pas de commentaires donc. Mais Robert Blake le sait, lui et les autres membres de la TMO qu'il préside devront bientôt rendre des comptes. D'ailleurs, quelques jours plus tard, Theresa May, première ministre à l'époque, ordonne la création d'une commission d'enquête. Et alors que Robert Blake essaie d'imaginer ce que les survivants iront dire aux enquêteurs à son sujet, se souvient de cette réunion organisée dans un local déprimant au rez-de-chaussée de la tour. Il se souvient de la lumière blafarde et des chaises qu'il avait fallu trouver à la dernière minute. Ce soir-là, Robert Blake était venu présenter le projet de rénovation de la tour aux habitants qu'il rencontrait pour la première fois. Mars 2012, 17h30. Edward Dufferne, 55 ans, vient de terminer sa journée de travail. Alors qu'il s'engouffre dans le hall de la tour Grenfell, où il habite depuis 11 ans, il tombe sur Rania, qui consulte un document affiché là au mur le matin même, sa fille dans les bras. Il semblerait que la TMO se soit décidée à faire des travaux. Il était temps, lui lance Edouard. Il faut dire que l'entretien global de cet immeuble de logements sociaux laisse à désirer. Depuis des années, les locataires se plaignent de l'humidité de leur appartement et de la moisissure qui gagne du terrain jusque dans les chambres. Un rafraîchissement serait bienvenu. Une heure plus tard, une quinzaine de voisins sont accueillis par l'équipe de la Tenant Management Organization, la fameuse TMO. Les travaux visent à construire de nouveaux appartements, mais aussi d'améliorer l'isolation pour réduire les factures de chauffage. Rania et son mari, Mohamed, observent les images 3D censées montrer à quoi ressemblera la tour, une fois les travaux terminés. Et tout le monde semble satisfait. Edouard s'étonne que la TMO ait sélectionné le cabinet d'architectes Studio E sans passer par une procédure d'appel d'offres. Ont-ils l'expérience des bâtiments de grande hauteur ? Demande un autre résident. Alors, visiblement agacés, les membres de la TMO éludent et mettent rapidement un terme à l'échange. Peu de temps après, ils décident tout bonnement de ne plus consulter les résidents. S'ils ont des questions, ils n'auront qu'à les envoyer par courrier et on leur répondra. Ou pas. En mai 2016, les travaux sont terminés à la Tour Grenfell, mais les résidents qui ont été tenus à l'écart de toutes les prises de décision et dont les demandes d'informations sont restées lettres mortes, ne sont pas satisfaits. Comme en témoigne cet article du journal local.
La TMO a décidé de suspendre les consultations publiques avec les résidents de Grenfell, car certains résidents étaient perçus comme trop perturbateurs. La relation des résidents avec la TMO était de plus en plus caractérisée par la méfiance, l'aversion, l'antagonisme personnel et la colère. De nombreux occupants de la tour considéraient la TMO comme un seigneur indifférent et tyrannique qui les rabaissait et les marginalisait, les considérait comme une nuisance ou pire, et ne prenait pas leurs préoccupations au sérieux.
Novembre 2016. Dans son appartement du 16e étage, Edouard Dafarne, qui est devenu au fil des mois le chef de file de la contestation, tape frénétiquement sur son clavier d'ordinateur. Depuis 4 ans, il écrit régulièrement des articles sur le blog qu'il tient avec un voisin pour dénoncer le mépris dont fait preuve l'organisme de gestion à l'égard des résidents. Il y exprime aussi leurs inquiétudes en ce qui concerne la sécurité incendie. Car la tour a beau avoir meilleure mine depuis la fin des travaux de rénovation, aucune alarme centrale, ni aucun système de jet d'eau n'ont été installés. Aucune notice d'évacuation n'a été mise à disposition des locataires et l'escalier central constitue la seule issue de secours. D'ailleurs, la brigade des pompiers de Londres avait émis un avis de défaillance sur la tour, car les portes coupe-feu ne fonctionnent pas correctement. Il propose alors de garder un œil sur l'immeuble et d'organiser des visites de contrôle régulières, mais l'idée est rejetée par le conseil municipal. Ce serait une dépense supplémentaire sans aucune preuve que cela ait un impact positif sur la sécurité incendie des résidents, répond-il. Circulez. Alors, en cette fin de soirée d'hiver, Edouard Dafarne publie sur son blog un article qui se termine par ces mots tristement prémonitoires.
Nous pensons sincèrement que seul un incendie dramatique permettra de mettre au jour l'incompétence des propriétaires représentés par l'organisme de gestion de Kensington et Chelsea et de mettre un terme à la gestion dangereuse que les locataires subissent.
Mais ce que les résidents ignorent, c'est que ce n'est pas la première fois que la TMO rogne sur les dépenses aux dépens de la sécurité des habitants de la tour Grenfell. 2 ans plus tôt en effet, la rénovation est confiée à la société Raiden. Pour remporter le marché, l'entreprise a proposé à la TMO de remplacer le revêtement initialement prévu pour recouvrir et isoler le bâtiment par une alternative moins chère d'environ 300 000 livres. Ce revêtement, ce sont des plaques d'isolation thermique composées d'aluminium et de plastique de la marque Arconic. Bien, marché conclu. Problème, ces panneaux ont lamentablement échoué au test de résistance au feu. Mais pour continuer à écouler ses stocks, l'entreprise a secrètement trafiqué les tests. Même scénario concernant la mousse isolante de marque Celotex installée entre les panneaux de revêtement sur la tour. Les tests de résistance au feu se sont tous soldés par des échecs. Et là encore, les équipes ont délibérément choisi de falsifier les résultats pour obtenir les certificats nécessaires à sa commercialisation. Résultat, Dès le mois de mai 2016, les quatre façades et le sommet de la tour sont recouverts d'un revêtement inflammable dans lequel est disposé un isolant tout aussi combustible. Un homme pourtant a bien tenté d'alerter les autorités sur les dangers de ces revêtements. Il s'appelle Nick Jenkins. C'est un expert et il sait que des matériaux inflammables sont régulièrement installés en Angleterre. Il décide alors de contacter Brian Martins, le haut fonctionnaire en charge de la sécurité incendie des bâtiments. Nick Jenkins l'exhorte de tout faire pour que de nouvelles réglementations soient appliquées. Mais Brian Martins fait la sourde oreille. Et pour cause, le mot « réglementation » est un terme honni par les divers gouvernements qu'il a vu se succéder depuis sa prise de poste. Les mots d'ordre contraires sont la déréglementation et la fin de l'interventionnisme d'État. Une approche libérale héritée de Margaret Thatcher et reprise par David Cameron dans un discours de campagne en 2009.
Le Parti travailliste nous dit que pour résoudre les problèmes de notre pays, l'État doit intervenir davantage. Ne voit-il pas que c'est cet interventionnisme qui est responsable de la situation actuelle? Pourquoi notre économie est en ruine? Parce que le gouvernement est trop présent. Pourquoi notre société est en ruine? Parce que le gouvernement est trop présent, trop interventionniste, et qu'il affaiblit la responsabilité. Cette idée que l'État doit apporter la solution à chaque problème, on en arrive au point où l'on considère que c'est à l'État de soutenir le club de foot du coin, avec des lois tellement bureaucratiques, tellement compliquées, que le procureur général lui-même ne peut respecter. On ne peut plus continuer ainsi.
Brian Martins ignore donc l'alerte et se garde par ailleurs de la transmettre à ses supérieurs. L'année suivante, c'est au tour de la brigade des pompiers de Londres de tirer la sonnette d'alarme, comme en témoigne cet extrait du rapport d'expertise qui a été remis aux autorités locales.
Les matériaux combustibles peuvent participer à la propagation rapide d'incendies sur les façades extérieures des immeubles de grande hauteur. Il est central de savoir précisément quels produits sont utilisés et s'ils sont ou non conformes à la réglementation.
Si les pompiers s'intéressent à la question, c'est qu'ils tentent de tirer les leçons d'un incendie qui avait coûté la vie à 6 personnes le 3 juillet 2009. L'un des membres du groupe parlementaire sur la sécurité incendie affirme avoir mis en garde Brian Martin. Si un feu comme celui de Lakenhall House se produisait la nuit, lorsque les résidents dorment, il pourrait y avoir 10 fois plus de morts. Ce à quoi Brian Martins lui aurait répondu « Où sont les preuves? Show me the bodies, comprenez? Montrez-moi les corps. » écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'incendie de la tour Grenfell.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
13 juin 2017, 21h. Au 20e étage, Rania Ibrahim ferme la porte de son appartement où elle vit avec ses deux filles de 3 et 4 ans. Son amie Mounira Mahmoud vient de partir. Elle rentre chez elle au 5e étage où elle s'apprête à endormir ses deux enfants. Au 22e, Hesham Rahman termine seul son dîner puis rejoint péniblement le salon à bout de souffle. À cause de son diabète, il a de plus en plus de mal à marcher. Il s'allonge sur le canapé, allume la télé et lance un documentaire animalier. Quand soudain, au 4e, le locataire de l'appartement numéro 16 entend comme une détonation qui vient de la cuisine. Son réfrigérateur, qui a visiblement explosé, est en train de prendre feu. À minuit 54, il attrape son téléphone et compose le 999.
Fire Brigade. Yeah, hello, hi, in the fire, flat 16 Greenfield Tower. Sorry, a fire where? Flat 16 Greenfield Tower.
Instantanément, la cloche retentit à la caserne des pompiers de North Kensington. 5 minutes plus tard, David Badillo et son équipe arrivent au pied de la tour. D'une fenêtre s'échappe effectivement la lueur orangée d'une fumée vaporeuse. Bon, rien d'exceptionnel a priori pour ces hommes qui interviennent sur 5 incendies par semaine, en moyenne. Les pompiers traînent alors leur lourd équipement jusqu'au 4e étage. En règle générale, ils interviennent dans des immeubles construits pour pouvoir faire face aux incendies. Les pièces communes sont normalement compartimentées, équipées de porte-feu et coupe-feu pour empêcher l'éventuelle propagation de la fumée et des flammes aux autres parties du bâtiment. Mais dans les escaliers, David Badillo constate quelque chose d'anormal. Plus tard, il raconte au micro de Kate Campbell, journaliste à la BBC.
J'attendais dans la cage d'escalier lorsque des résidents des étages supérieurs sont descendus nous dire qu'il y avait du feu et de la fumée chez eux. J'ai pu voir que leurs yeux étaient larmoyants. Je me suis dit que c'était pas normal et que les compartiments coupe-feu étaient peut-être cassés.
Heureusement, pense-t-il, les matériaux non inflammables qui ont dû être utilisés pour construire cette tour freineront bientôt l'avancée du feu. Mais lorsqu'il arrive dans la cuisine de l'appartement 16, où l'incendie s'est déclenché, son inquiétude monte d'un cran. Les flammes qui s'échappent par la fenêtre embrasent la façade extérieure du bâtiment, du jamais vu. À 1h10 du matin, Edward Avon, l'auteur du blog dont nous avons parlé, écoute la radio dans son lit lorsqu'il entend l'alarme incendie de l'appartement voisin se déclencher. Sans doute un steak oublié sur le grill, pense-t-il. Mais 5 minutes plus tard, il entend des cris dans le hall. Alors d'un bond, il saute du lit. La suite, il la raconte au micro de la BBC dans un podcast intitulé « Grenfell, Building a Disaster ».
Je suis allé à ma porte d'entrée et je m'attendais à trouver mon voisin dehors qui s'excusait d'avoir brûlé de la nourriture. Mais quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu toute cette fumée épaisse, acre, en face de moi. Et puis j'ai eu l'impression que mon cœur s'était arrêté. J'ai eu ce sentiment de peur. C'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était vraiment, vraiment très grave.
Alors qu'il referme la porte, tétanisé, il entend la sonnerie de son téléphone. C'est son voisin qui a déjà quitté son appartement et qui l'implore de sortir immédiatement. Une serviette humide sur la bouche, Edward prend une grande inspiration et plonge dans un nuage opaque de fumée noire, irrespirable. Une fois dehors, couvert de suie, il se retourne et lève des yeux hagards vers la tour, sa tour, qui flambe comme une allumette. Au même instant, au 5e étage, Mounira se précipite dans la chambre de ses enfants. Paniquée, elle attrape un sac allongé, saisit le petit par la main et parvient, avec son beau-père, à quitter la tour. Une fois saine et sauve, sur le trottoir d'en face, elle réalise que Rania et ses filles ne sont pas là. Au téléphone, Mounira la supplie de s'enfuir. Mais la fumée, lui dit Rania, est trop épaisse, trop menaçante. À l'intérieur de la tour, la situation vire au cauchemar pour les pompiers. En l'espace de quelques minutes, la fumée s'est répandue dans tous les halls, dans la cage d'escalier et sur 2 des façades extérieures, ce qui rend la moindre manœuvre de sauvetage extrêmement complexe. Pourtant, il leur reste des centaines de personnes à secourir. Des gens à qui on a dit au téléphone, comme le veut la procédure, de rester chez eux et d'attendre les secours. Les dispositifs anti-incendie sont censés empêcher la propagation de l'incendie pendant une heure, ce qui laisse aux pompiers le temps d'intervenir. Mais à Renfell, rien ne se passe comme prévu. À 2h du matin, au 21e étage, Marcio Gomez, sa femme Andrea, enceinte de 7 mois, et leurs deux filles, âgées de 10 et 12 ans, entendent quelqu'un tambouriner à la porte. C'est Hélène et sa fille, leur voisine d'à côté, qui cherchent à s'abriter. Le couple les fait entrer et appelle les secours. Les consignes sont claires. Restez où vous êtes, les pompiers sont sur place, ils s'en occupent. Pendant ce temps, David Barilo apprend qu'une adolescente de 12 ans est coincée, toute seule, dans un appartement du 20e étage. En gravissant les étages, les pompiers constatent que la fumée est de plus en plus épaisse. L'obscurité est telle qu'ils ne parviennent pas à voir les numéros des appartements et la chaleur devient insupportable. Bientôt, un sifflement dans leurs équipements leur indique que leurs réserves en oxygène sont insuffisantes. Ils n'ont d'autre choix que de faire demi-tour et d'abandonner la jeune fille à son sort. Chez les Gomez également, la situation se détériore rapidement. Une fumée noire commence à s'échapper du plafond et bientôt, de gigantesques flammes entrent par la fenêtre de la chambre. Marcio décide alors qu'il est temps de prendre la fuite. Andrea, la voisine, et les enfants se mettent en rang devant la porte pendant que Marcio appelle à nouveau les secours pour être guidé à distance. La procédure du « stay put » ou « restez où vous êtes » ne semble plus d'actualité. Au contraire, on ordonne désormais de partir, coûte que coûte. Mais dans cet enfer irrespirable, les membres de groupe se dispersent rapidement. Et bientôt, Marcio réalise que ses filles ont disparu. Sa femme, Andrea, a brusquement lâché sa main.
Oh nom de Dieu! S'il vous plaît, ma femme est enceinte. Je dois retourner la chercher. Je vais bien. Je dois retrouver ma femme.
Pendant 30 minutes, Marcio Gomez tâtonne dans le noir et la fumée en essayant de suivre les consignes de l'opératrice au bout du fil. À 2h42, Rania et ses voisins commencent à paniquer. La fumée entre désormais par les interstices des portes et des fenêtres et l'air devient irrespirable. Mais les consignes restent les mêmes, bien que d'autres résidents soient poussés au contraire à prendre la fuite. Au micro de Kate Campbell, Mounira revient sur les dernières paroles qu'elle a échangées avec son amie.
Je voulais rester au téléphone avec elle le plus longtemps possible. Tout ce que je voulais, c'était qu'elle descende et rien d'autre. Elle avait appelé son mari au téléphone et lui avait demandé de lui pardonner. Elle m'a dit que son mari allait arriver. Je n'arrêtais pas de lui dire de descendre, mais elle savait qu'il n'y avait plus de chance de survivre. Elle a dit à son mari, on n'y arrivera pas.
Lorsque Mounira tente de la rappeler, à 3h15, Rania ne répond plus au téléphone. À 3h20, au dernier étage de la tour, Hicham est en ligne avec les secours. Son appartement est rempli de fumée et à l'extérieur, la fenêtre est en feu. Quand on lui demande enfin de quitter les lieux, il explique qu'à cause de son diabète, il ne peut pas marcher. « Monsieur, les pompiers vont essayer de vous rejoindre », lui dit-on alors pour le rassurer. En réalité, les pompiers ont complètement perdu le contrôle de l'incendie. 10 minutes plus tard, à 3h30, les fenêtres de la tour se mettent à exploser les unes après les autres. Le feu, qui s'est propagé sur les quatre façades de la tour et jusqu'au toit, pénètre tous les appartements jusque-là épargnés. Et la tour s'enflamme, comme une torche. À l'extérieur du brasier, Marcio retrouve finalement sa femme Andrea et ses deux filles, ainsi que sa voisine Hélène et sa fille. Mais le fils à naître de Marcio et Andrea, qui était enceinte de 7 mois, ne survivra pas. Concernant Rania Ibrahim et ses deux filles, Fatia, 4 ans, et Anya, 3 ans, elles ont péri, avec les quatre voisins qui s'étaient réfugiés chez elles. Hicham non plus n'a pas survécu, tout comme Mohamed Al-Hadji Ali, 23 ans, qui avait fui la Syrie pour s'installer au Royaume-Uni 3 ans plus tôt. Ou Stephen Power, le père de 5 enfants, qui n'a pas voulu abandonner ses chiens. Quelques instants plus tard, une fillette de 6 ans est transportée en urgence à l'hôpital du district. Elle l'ignore encore. Mais toute sa famille est morte dans l'incendie. Et bientôt, Les pompiers trouveront dans les décombres les corps inanimés de son père, Omar, de sa grande sœur, Malak, 8 ans, non loin de celui de sa mère, Farah, 31 ans, qui tenait dans ses bras Lena, son bébé de 6 mois. Et le cauchemar continue pour celles et ceux qui parviennent à s'extraire de la tour. À l'extérieur, les autorités semblent dépassées par les événements. Les survivants, profondément traumatisés, ne sont pas tous pris en charge, comme le raconte Edward Davern à la BBC.
J'avais comme de la suie sur le visage. J'avais toujours la serviette que j'avais utilisée pour sortir autour de mes épaules. Et j'avais besoin d'aide. J'étais traumatisé. Et en fait, tout ce que la police a fait, c'est littéralement nous hurler dessus. Reculez, reculez. Et puis les forces anti-émeutes sont arrivées, avec leurs boucliers et leurs matraques. Ils passaient comme ça devant nous en courant. Et ce n'est que vers 3 ou 4 heures du matin qu'on a pu s'abriter dans des centres communautaires. Parce qu'on était toujours dans la rue. C'était horrible, vraiment horrible.
Les centres communautaires auraient dû être ouverts plus tôt, mais les autorités avaient perdu la clé. Alors, parmi les victimes, certaines passent la nuit dehors et s'endorment, épuisées sur le bord d'un parc voisin ou dans leur voiture. Dans les centres d'accueil, la liste des disparus continue de s'allonger. Des familles entières manquent à l'appel. Au lendemain du drame, les autorités s'engagent à reloger toutes les familles de façon permanente avant Noël. Mais 6 mois plus tard, seule une cinquantaine d'entre elles a été relogée, alors que 150 familles vivent toujours entassées dans des logements temporaires ou dans des hôtels. L'aide financière est également jugée irrégulière et insuffisante. Certains reçoivent 500 livres quand d'autres ne touchent rien pendant un mois. Parmi les victimes, certaines s'interrogent. Les autorités locales des quartiers chics de Kensington et de Chelsea auraient-elles traité les victimes de cette manière s'il ne s'agissait pas de bénéficiaires de logements sociaux ou d'origine étrangère? C'est le sentiment de Karim Moussili, le neveu d'Echam Rahman, décédé au dernier étage de la tour.
C'est ce sentiment, vous savez, tous ces bruns qui portent des hijabs, qui ont des noms imprononçables, on n'a vraiment pas besoin de se soucier d'eux. Ils ont une maison gratuite grâce aux logements sociaux, ils devraient juste se taire. C'est l'attitude qui régnait dans les institutions. C'est comme ça que les gens ont été traités. Ce sont les faits. Et malheureusement, c'est toujours comme ça aujourd'hui.
Quoi qu'il en soit, les rescapés de la tour Grenfell continuent de se heurter des années après le drame à l'indifférence d'une administration censée pourtant les protéger. Comment faire son deuil dans ces conditions? Comment se reconstruire? Nombre de victimes ont perdu leur emploi suite au drame. Certains ont même tenté de mettre fin à leur jour. En 2019, les rescapés apprennent enfin ce qui a provoqué l'incendie de leur immeuble. Dans le premier rapport de la commission d'enquête, les experts affirment que des matériaux combustibles avaient été installés dans les murs de la tour, ce qui a entraîné la propagation rapide du feu dans l'ensemble du bâtiment. Mais il leur faudra attendre encore 5 ans pour tout savoir des erreurs et des négligences qui ont entraîné la mort des 72 victimes de l'incendie. Lors d'une conférence de presse, le président de la commission, Sir Martin Moore-Beck, résume les conclusions de l'enquête.
La simple vérité est que les décès survenus étaient tous évitables et que ceux qui vivaient dans la tour ont été gravement abandonnés pendant plusieurs années et de différentes manières par ceux qui étaient chargés d'assurer la sécurité du bâtiment et de ses occupants.
Alors, qui est responsable de cette tragédie ? Le rapport pointe d'abord les défaillances des gouvernements successifs qui ont supprimé les réglementations dans le domaine de la sécurité incendie et qui ont ignoré les multiples alertes qui leur ont été transmises. Il dénonce également la malhonnêteté des entreprises qui ont mis sur le marché des matériaux hautement inflammables, le manque de formation des pompiers de Londres et la prise en charge désastreuse des victimes par l'administration. Comme le précise le président de l'enquête, tous n'ont pas le même degré de responsabilité dans le désastre. Mais tous y ont contribué d'une manière ou d'une autre, par incompétence le plus souvent, mais aussi par malhonnêteté et cupidité. Reste à juger les coupables, mais là encore, les familles de victimes et les rescapés devront s'armer de patience. Le procès est prévu pour le début de l'année 2027 au plus tôt, soit 10 ans après le drame. 19 organisations et 58 personnes font l'objet d'une enquête pour mauvaise conduite dans l'exercice d'une fonction publique, fraude, négligence grave et homicide involontaire.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'incendie de la tour Grenfell à Londres, dont nous parlons avec notre invité qui est aussi chez lui, Antoine Gignot.
Bonjour. Bonjour.
Parce que vous êtes grand reporter pour Radio France, aujourd'hui coproducteur de l'émission Interception, c'est le magazine de reportage de France Inter, tous les dimanches de 9h à 10h. Mais à l'époque du drame, vous êtes correspondant de Radio France à Londres. Vous êtes arrivé l'année précédente, en 2016, dans un pays agité à la fois par le Brexit et les attentats.
Oui,
les
on est dans un climat très particulier parce que, d'abord, la capitale britannique est complètement secouée par ce qui vient de se passer, par cette sortie de l'Union européenne. Et puis, le gouvernement n'a aucune idée des modalités qui vont permettre de quitter l'UE. Et puis, dans le même temps, on a un climat social très compliqué avec une montée de la xénophobie, avec une série d'attentats, rappelez-vous, attentats au couteau sur le pont de Westminster le 22 mars, 6 morts, attentat de Manchester qui fait 22 morts le 22 mai, et puis début juin, à nouveau une attaque au couteau sur le London Bridge. C'est donc extrêmement compliqué pour les effectifs de police et pour les effectifs de pompiers, pour les secours, et ça va jouer un rôle dans cette affaire de la Grenfell Tower.
Mais oui, on verra, on y reviendra. Alors, le 14 juin 2017, vous êtes réveillé, je crois, vers 4h du matin par la rédaction en chef de nuit de la radio, parce qu'on commence à avoir des images sur les réseaux sociaux, des images de l'incendie. Donc là, j'imagine, c'est fini le pyjama, on s'habille et on part.
À toute vitesse, ouais. On a des images du bâtiment en flammes, mais pas vraiment de détails. Du coup, je saute dans la voiture. À l'époque, le bureau de Radio France est situé vers Camden, à côté de la gare Saint-Pancras. Il faut donc traverser la quasi-totalité de la ville pour aller vers l'ouest, vers Kensington et Chelsea. On passe entre Hyde Park sur la gauche et Regent's Park sur la droite. Beaucoup de feux rouges sur le chemin et surtout beaucoup de sirènes, beaucoup de gyrophares. Et quand j'arrive sur les hauteurs de Notting Hill, on aperçoit là une énorme colonne de fumée noire. Les lueurs de l'aube commencent à peine à poindre, mais on a déjà cette colonne de fumée. Toutes les routes sont barrées et on s'approche avec les quelques collègues qui sont là, en slalomant, en laissant les voitures et en slalomant entre les forces de sécurité pour s'approcher au plus près du building. Et là, on comprend assez vite qu'on va être face à une catastrophe d'une ampleur colossale. On sait que c'est un immeuble qui abrite près de 600 personnes. On sait que l'incendie s'est propagé dans la totalité du bâtiment puisqu'on voit les flammes et les restes de braise qui commencent à flotter un peu partout dans l'air tout autour. Et on imagine qu'on va se retrouver avec un bilan catastrophique et que, quoi qu'il arrive, ce sera un des drames majeurs du Royaume-Uni.
Et cette tour Grenfell, c'est une tour parmi d'autres ou elle est plus connue que d'autres? Non, pas forcément.
Pas à l'époque, non. Ouais. À l'époque des buildings de grande hauteur, on en a quasiment 9000 dans l'ensemble du Royaume-Uni. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, elle a été réhabilitée. Et elle a été réhabilitée, c'est assez intéressant, pas forcément parce qu'elle était vétuste pour les habitants, mais parce que pour les riverains du quartier de Chelsea, quartier assez chic,
oui,
de l'ouest, ouais, londonien. Sûr. Et ben cette tour au milieu du paysage faisait un peu tache et on l'a habillée du mieux possible pour la rendre plus présentable.
Bien, alors on revient au fait, au drame. Vous intervenez assez vite sur France Inter et France Info dès le début de la matinale. Qu'est-ce qui vous frappe pendant que vous préparez les directs?
D'abord, la désorganisation totale des forces de sécurité. On l'a bien entendu dans le sujet qu'on vient d'écouter. Les pompiers sont un peu partout, mais totalement dépassés. Et puis, dans le même temps, ce qui est assez frappant, parce qu'on a parlé d'ouverture assez tardive des centres pour accueillir les victimes et les réfugiés, mais dans le même temps, les habitants, les riverains du quartier se précipitent. Il y a un gigantesque élan de solidarité des londoniens, avec des couvertures, des habits, des bouteilles d'eau, des paquets de chips, du pain, de la nourriture. Et ça, c'est vraiment ce que le Royaume-Uni peut produire de mieux. Je vous l'ai dit, on est dans un contexte d'attentat à l'époque, oui, avec une population qui est habituée à réagir massivement, à se regrouper.
Bah, on l'a vu pendant la guerre mondiale.
Ouais, absolument. Et là, ça fonctionne à plein. Et c'est d'ailleurs ce qui sert un petit peu d'épaule pour ces rescapés qui sont livrés à eux-mêmes, parce que sinon, effectivement, l'accueil qui aurait dû avoir lieu n'est absolument pas mis en place.
Et l'odeur, qu'est-ce qu'on...
On a des braises partout, donc partout, on a une fumée noire. Mmh. D'ailleurs, on la sentira pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et cette silhouette de la tour Grenfell va rester pendant des mois comme un symbole du drame, avec l'odeur autour des bâtiments et le bruit Pendant des semaines, on va passer à côté de cette gigantesque carcasse qui a été fragilisée et dont la structure en métal va continuer à produire des craquements sinistres.
Ah, d'où le bruit, d'accord.
Dans tout le quartier de Chelsea, Kensington. C'est vraiment, j'ai traversé plusieurs fois ces rues-là dans les semaines qui ont suivi, dans les mois qui ont suivi, et à chaque fois, c'était le même sentiment de terrifiant face à ce qui s'était passé.
Alors, très rapidement, vous rencontrez, vous interviewez des survivants, et très rapidement, ils vous parle de cette rénovation catastrophique de la tour dont on vient de parler et du problème des procédures d'évacuation.
Oui, on s'aperçoit très vite en fait que ceux qui ont survécu, ceux qui ont réussi à vivre, ce sont ceux qui n'ont pas écouté les pompiers, ceux qui ont désobéi, ceux qui sont sortis de chez eux, qui se sont engouffrés dans les cages d'escalier malgré la fumée. Parce que la doctrine dont vous avez parlé, le fameux stay put, rester chez vous, on le connaît au Royaume-Uni depuis 1962. Et c'est la base de la doctrine pour les pompiers britanniques, parce que normalement, les bâtiments sont censés pouvoir permettre d'intervenir en moins d'une heure et d'évacuer ensuite les habitants. Le problème, c'est que quelques années auparavant, en fait, depuis le milieu des années 2010, des experts préviennent et font des rapports sur le sujet pour expliquer que les normes de sécurité ne sont pas forcément suffisantes pour continuer à se tenir à cette doctrine et donc qu'on va probablement être obligé d'en changer. Le gouvernement ne change pas son fusil d'épaule, les pompiers continuent de se tenir à ce stay put et on aboutit à cette catastrophe. Ce qui est important aussi de noter là-dedans, c'est que les pompiers ont été extrêmement fragilisés dans les années qui ont précédé le drame, notamment parce que Boris Johnson, en 2013, qui était maire de Londres, a décidé de couper massivement dans les effectifs, malgré l'avis du Parlement. C'est un texte qui avait été présenté à la Chambre des communes, qui a été rejeté par les députés, mais qui a été validé à l'intérieur de la ville de Londres par Boris Johnson. Et on va supprimer près de 30 millions d'euros. Ça représente 27 camions, 550 postes qui disparaissent, 10 casernes de pompiers. Et parmi ces casernes, il y a celles de Knightsminster et Knightsbridge qui sont justement celles qui étaient le plus à proximité de la tour Grenfell.
France Inter. Affaires sensibles.
Antoine Gignot, l'énorme erreur des autorités apparemment, c'est d'avoir permis l'utilisation d'un revêtement inflammable pour rénover la tour. Est-ce que les rescapés que vous interviewez, ou en bas des bâtiments, et malgré l'émotion, et malgré l'urgence, vous parlent immédiatement des travaux et de ces questions de sécurité?
Absolument. Et très vite, dès ce matin-là, il y a à la fois de la peur, de la tristesse et de la colère. Parce que je croise assez vite des résidents qui ont signé en 2015 une pétition pour dire leur inquiétude face au manque de transparence en matière de sécurité. Et ils parlent notamment de ces fameux sprinklers, ces jets d'eau qu'on a entendus dans le sujet, qui devraient équiper les immeubles de grande hauteur. Et avec l'ensemble des journalistes qui travaillent sur le sujet, on va s'apercevoir effectivement au fil des jours qu'il y a eu une multitude d'alertes qui ont été systématiquement ignorées.
Mais oui, il y a eu des précédents. On a parlé de l'incendie de juillet 2009, je crois. Est-ce qu'on pouvait vraiment imaginer qu'une catastrophe de cette ampleur-là était possible? On a envie de répondre oui, parce qu'il y avait, il y a eu des précédents, et en même temps, non, on n'imaginait pas que ça puisse aller aussi loin.
Avec autant de victimes. Mais ouais. Il y a eu énormément d'alertes avant. Le premier accident avec un revêtement qui prend feu, c'est en 1991 à Knowle, dans le Merseyside. Pas de victimes à l'époque, mais 8 ans plus tard, bis repetita, avec le même genre de revêtement dans un immeuble de Garnock Court en Écosse qui fait un mort. Les experts à ce moment-là, rendez-vous compte, on est quand même à la fin des années 90, préconisent déjà de remplacer les revêtements installés sur les tours s'ils ne sont pas ignifugés. Recommandation ignorée par le gouvernement. De la même façon, en 2010, un incendie des Shirley Towers à Southampton tue 2 pompiers. De nouveau, recommandation d'experts ignorée. Et en 2015, quand 14 appartements partent en fumée à Canterbury et que de nouveau le député local demande la mise en place systématique de systèmes anti-feu, là les autorités répondent qu'on a déjà traité le sujet et que de toute façon il n'y a plus lieu d'en parler. L'année suivante, on s'aperçoit que dans l'ensemble du Royaume-Uni, sur les 2925 tours d'immeubles qui existent et qui sont similaires avec ce genre de revêtement, 18 immeubles sociaux seulement ont été équipés. Donc en fait,
on savait,
les autorités savaient et connaissaient parfaitement les risques.
Et alors dans le cas de la Grenfell Tower, ça va même un peu plus loin, puisque les matériaux qui ont été utilisés pour rénover la tour n'auraient jamais dû se trouver sur la façade d'un immeuble.
Oui, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que c'est l'aboutissement de 30 ans de dérégulation. C'est même la conséquence directe, on a mentionné Margaret Thatcher, mais d'une décision de la Première Ministre quand elle arrive au pouvoir.
Theresa May.
De Margaret Thatcher, puis Theresa May. Oui. Margaret Thatcher... Oui. dès 1985, c'est ce qu'on appelle le Building Act, le décret construction, si vous voulez. C'est un texte qui fait disparaître d'un seul coup, en 1985, 300 pages de codes, de lois, de règles qui s'appliquaient jusque-là au secteur de la construction en Grande-Bretagne, avec l'idée qu'il faudra maintenant approuver les dossiers quasiment au cas par cas. Et au passage, le Building Act privatise aussi le contrôle des normes de sécurité. Ça veut dire qu'il va y avoir une mise en concurrence des maires locaux, des autorités locales, avec des consultants privés et la création de conglomérats avec notamment cette organisation dont on a parlé tout à l'heure qui gère les locataires du quartier de Kensington et Chelsea et qui va prendre en 1995 le contrôle de 9000 logements. Évidemment, l'idée derrière ça, c'est de faire des économies avec cette phrase qui a été popularisée derrière par David Cameron à l'époque où il est Premier ministre. One in, two out. Chaque fois que vous introduisez une règle, vous devez en supprimer deux. Et ben, c'est à force de supprimer ces règles qu'on va arriver à la catastrophe qui nous occupe aujourd'hui.
C'est exactement ce qui va se passer lors de la rénovation de la tour.
Exactement. En fait, au départ, en 2012, il y a une consultation pour demander aux habitants de la tour leur avis sur le chantier de réhabilitation, et notamment sur le revêtement. C'est, ça, c'est très intéressant, c'est marqué dans les archives de l'époque. Ils optent pour un matériau en zinc et en composite qui résiste au feu. Le problème, c'est qu'il est jugé évidemment trop cher, et il va être remplacé par ce Cellotex RS5000 isolant qui sera interdit après l'incendie de la tour parce qu'on découvre qu'il contenait des résidus de magnésium, d'oxyde de magnésium, et c'est une matière qui reste hautement inflammable. Ce qui est fou, c'est qu'en fait, la combinaison des deux matériaux utilisés pour l'isolation, le revêtement et l'isolant en lui-même, leur combinaison n'a jamais été testée à l'époque par aucun bureau d'études à grande échelle. C'est terrifiant.
Donc, si j'ai bien compris, le seul critère qui est retenu, c'est le critère économique.
On peut le résumer comme ça. L'équation est simple. Comme le gouvernement limite à près de 9 millions d'euros les chantiers de réhabilitation, c'est l'entrepreneur qui propose la solution la plus économique qui remporte l'appel d'offres. Et en l'occurrence, là, c'est l'entreprise Rydon qui remporte le marché en 2014 devant Bouygues et Leadbeater, dont les offres sont rejetées. À l'époque, le commentaire, je l'ai noté sur le dossier, c'est qu'il est le plus économique et le plus avantageux. Avec cette précision, ce sont des travaux qui amélioreront l'aspect de la tour, notamment pour ceux qui la voient dans les quartiers tout autour. C'est ce que je vous disais. Autrement dit, il ne s'agit pas du tout d'améliorer la sécurité ou le confort des résidents. L'idée, c'est vraiment de faire disparaître cette verrue qui fait un peu tache dans le paysage pour les habitants des quartiers chics de Chelsea. Et effectivement, les résidents à l'époque l'écrivent sur un blog. Seule une catastrophe pourra attirer l'attention sur notre situation.
La preuve, mais à quel prix, hein ? Alors, au mois de septembre dernier, le gouvernement britannique a présenté ses excuses pour le drame avec cette phrase « Le pays a manqué à son devoir le plus fondamental. » Le plus fondamental, vous protéger, vous et vos proches, les personnes que nous sommes censés servir. J'en suis profondément désolé. Est-ce que ça suffit à faire oublier le drame et le manque de réaction des autorités en 2017 ?
Alors, clairement, c'est tout de même un pas fondamental pour les Britanniques. Oui, parce que l'État britannique ne s'excuse pas facilement. Il n'y a toujours pas eu, par exemple, d'excuses pour l'impact de la colonisation et de l'esclavage du côté des Britanniques. C'est un sujet qui est toujours en discussion au Parlement aujourd'hui. Mais évidemment, ces excuses ne font pas oublier ce qui a présidé à la mise en place de ce drame, et puis la gestion catastrophique de la crise. Moi, je me souviens très bien, par exemple, de la réunion de quartier qui a lieu juste après le drame. On est vendredi après-midi à la mairie de quartier de Kensington et Chelsea. On a une centaine de manifestants, des proches des victimes, des survivants. On a des cris, on a des slogans avec ce « no justice, no peace », pas de justice, pas de paix, et vraiment une colère gigantesque des habitants. Et à aucun moment, la porte ne s'ouvre. Au bout de peut-être une heure et quart, on va recevoir les journalistes, on nous laisse rentrer parce que nous, on est bien obligés de nous répondre, et puis on nous met dans une salle, on nous donne quelques éléments de langage pour nous dire qu'il y aura probablement une enquête, qu'on fera la lumière sur ce qui s'est passé, et c'est tout ce qu'on obtient. Il n'y a pas à aucun moment d'intervention ou de lien avec les résidents et les victimes.
Theresa May, aurait-elle brillé par son absence ?
Absolument, oui. Theresa May, le problème, c'est qu'elle elle vient directement sur place le jour du drame, et elle rencontre les pompiers, elle les félicite, elle rencontre les policiers, mais à aucun moment, elle non plus, ne rencontre les habitants. Et au-delà de toutes les erreurs, au-delà de ces économies de bout de chandelle sur la rénovation de la tour, il y a aussi cette attitude de la Première Ministre qui reste ancrée, même aujourd'hui encore, dans la tête des Britanniques. Et c'est aussi aussi d'ailleurs en partie ce qui lui a coûté son siège de première ministre au moment où elle était déjà en difficulté avec le Brexit. Il y a ce mépris, on l'a entendu dans les réactions du reportage tout à l'heure, ce mépris, cette population qui a l'impression d'avoir été traitée comme une population de seconde zone. Dans son édito de l'époque, le Guardian, quotidien de gauche, compare cette erreur à celle de George Bush pendant la tempête Katrina. Je ne sais pas si vous vous rappelez le président américain qui se rend sur place et on le voit, et cette photo terrible, on le voit regarder les dommages qui ont été causés par la tempête à travers un hublot. Là, c'est un peu la même chose. Il y a des phrases. Theresa May a eu peur de rencontrer les survivants. Elle est finie. Et effectivement, quand elle retourne sur place, il est trop tard. Il est d'autant plus tard que la reine se rend aussi sur place, que Meghan Markle va aller sur place à la rencontre des familles de victimes et cuisiner avec les familles de victimes. Et là, on est dans l'empathie. Là où, effectivement, les autorités ont complètement raté la
gestion. Non, pas vu. Ouais. Oui, il reste 30 secondes. Est-ce que ce genre d'accident pourrait avoir lieu en France, Antoine ?
Pas vraiment. Alors, à quelques exceptions près, on a eu en 2012 en France un mort à Roubaix à cause d'un incendie dans une colonne, dans une cage d'escalier où il se trouvait effectivement des matériaux présents similaires à ceux qui se trouvaient sur la tour Grenfell. Mais en théorie, on a une réglementation beaucoup, beaucoup plus stricte. Et puis, on a aussi une réglementation, évidemment, qui est encadrée par les textes européens et là aussi des normes de sécurité qui sont bien plus détaillées que ce qui existe au Royaume-Uni.
Merci infiniment Antoine Gignot et bravo pour la précision de vos souvenirs. Au revoir.
Au revoir, merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'incendie de la Tour Grenfell, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Clément Berman.